Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 8 décembre 2024, dimanche 8 décembre. Il fait moche, il fait froid, c'est l'automne, c'est bientôt le Noël, c'est bientôt l'hiver, il neige de plus en plus bas. Bref, c'est une semaine qui termine un peu dans la grisaille, même si les marchés financiers continuent de cartonner et de terminer au plus haut de tous les temps. L'Allemagne au plus haut, les États-Unis au plus haut, la France pas au plus haut. Mais ça ne saurait tarder avec le retour du président Macron et du fait que c'est un génie parce qu'il a reconstruit Notre-Dame de Paris. On fait le point de la situation tout de suite sur ce qui s'est passé dans le monde, en Suisse, un peu partout, ici et ailleurs. La première chose qu'il faut retenir, bien sûr, c'est la bullish attitude du marché. On n'a jamais été aussi bullish dans l'histoire de l'investissement. Les gens sont méga, méga, méga motivés. Plus personne n'a aucun doute sur le fait qu'on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et pour l'instant, eh bien, rien ne nous arrête. Alors, comme je l'ai dit à moult reprises, il est évident que ce genre de situation est encourageante, mais quand même inquiétante, parce que finalement, on ne peut pas imaginer que les marchés puissent continuer à monter sans arrêt, sans jamais revenir un tout petit peu, et sans jamais s'arrêter, sachant que quand même, si on creuse un peu dans le tissu économico, macroéconomico surtout, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas non plus l'euphorie générale, et que pour l'instant, eh bien, on voit, comme d'habitude, depuis pas mal de mois, déjà le verre à moitié plein, et on ne fait absolument pas cas de ce qu'il se passe ailleurs, dans l'économie. Et donc pour l'instant, tout va bien. La bullish attitude est parmi nous et il n'y a rien à craindre. L'autre sujet de la semaine, bien sûr, c'est le Bitcoin qui a passé les 100 000 dollars. Alors, on ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà beaucoup abordé la chose, mais il faut quand même le signaler. C'est un milestone, c'est une zone importante pour les marchés puisque psychologiquement, on a passé des niveaux qu'on ne pensait quasiment pas possible il y a quelques années. Et aujourd'hui, le fait d'avoir passé ces 100 000, eh bien, tout le monde est convaincu que ça va continuer encore et encore. Alors, il est vrai que les décisions de Donald Trump de nommer Atkins à la tête de la SEC, il y a quelqu'un qui est plutôt pro-crypto, a bien motivé tout le monde et on voit que ça continue de marcher relativement bien. On a encore vu une très belle performance du Dogecoin cette semaine également. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve et le Bitcoin eh bien, continue de tutoyer les 100 000 dollars. Pour l'instant, on est un tout petit peu en dessous, mais visiblement, c'est pas très très grave parce que c'est juste une question de temps pour qu'on reparte en direction de... Je crois que grosso modo, statistiquement, les gens s'attendent à voir du 126 000 avant la fin du mois. C'est en tout cas ce que disent les statistiques. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les mêmes statistiques qui avaient dit que Donald Trump serait président. Et puis donc, record sur les indices américains. Encore une fois, une semaine de plus. Alors, ça continue de cartonner. Les performances sont spectaculaires. Plus personne ne se pose aucune question. Comme je vous l'ai dit, bullish attitude dans tous les sens. C'est absolument génial. Ce qu'il faudra surtout retenir cette semaine... C'est le retour des Magnificent Seven. Alors oui, les Magnificent Seven, on n'en avait plus tellement parlé ces derniers temps, enfin, sauf Nvidia, puisque Nvidia, c'est un petit peu à part, c'est le Magnificent Only One pour l'instant. Mais en tous les cas, les Magnificent sont de retour. On a vu des très belles performances sur Apple, des très belles performances sur Amazon, qui est en train de littéralement exploser. On a une pensée émue pour Monsieur Jeff Bezos qui va passer un joli Noël. Et puis, on a Microsoft qui repart à la hausse, Meta qui est au plus haut de tous les temps. Donc voilà, le retour des Magnificent Seven est acté. Et c'est aussi ça qui a permis à l'indice américain, aux indices américains, mais au Nasdaq en particulier, de terminer au plus haut de tous les temps. Donc on reste là aussi dans quelque chose d'extrêmement optimiste. Encore une fois, la tech permet au marché de continuer à monter, à pulvériser de nouveaux records. Donc tout va très très bien. Et puis les records ne sont pas qu'aux États-Unis, puisqu'on a vu également qu'en Allemagne, ça cartonnait. L'Allemagne a pris quand même près de 5% sur toute la semaine dernière, alors que finalement, il n'y a rien et que les chiffres économiques sont toujours extrêmement... Bah, on va pas dire dégueulasse, mais ils sont pas extraordinaires quand même. Et on voit que l'Allemagne va pas vraiment dans la bonne direction. D'ailleurs, pas mal de personnes se demandent si on n'est pas en train d'aller dans la direction de la récession sur l'Allemagne. Ça commence à chuchoter à droite à gauche. Quand on voit les expectations de GDP l'année prochaine, ça risque d'être quand même vachement compliqué au niveau de l'Allemagne. Mais c'est pas grave, puisque comme je vous le disais, le DAX a quand même pris plus de 5% sur la semaine, donc record historique. Et puis, qu'est-ce qui va bien en Allemagne? Ben, juste pour savoir, ben, pas grand-chose, hein. Si on revient un petit peu sur les chiffres, regardez par exemple, il y a eu la semaine dernière les chiffres du PMI composite qui ont été publiés pour la zone euro, qui est tombé à 48,3 au mois de novembre, son plus bas niveau depuis 10 mois. On était à 50 en octobre pour la bonne bouche. Bah, ce chiffre indique une nouvelle contraction de l'économie de la région. L'Allemagne, la France, l'Italie enregistrent toutes des baisses dans l'activité commerciale. Et donc, du coup, ça va nous amener une petite réflexion assez intéressante pour la Banque centrale, la BCE, qui se retrouve dans une situation qui n'est pas hyper simple. L'économie est en difficulté, elle a besoin d'un soutien monétaire, mais on l'a vu ces derniers temps que l'inflation avait tendance à vouloir repartir à la hausse et que le prix de la consommation était relativement cher. Donc, a priori, la BCE devrait baisser les taux ce jeudi d'ailleurs, puisqu'il serait une échéance jeudi, 25 points de base. Mais ils vont faire attention parce qu'il ne faudra pas être trop agressif, histoire de ne pas non plus stimuler trop l'inflation. Donc vraiment, c'est pas simple ce qui est en train de se passer en Europe et ce sera vraiment le gros challenge de la semaine pour la BCE parce que ça aura des conséquences pour l'année 2025. Et puis, en France, bien sûr, on a le retour de l'enfant prodigue, Emmanuel Macron qui a inauguré la Notre-Dame de Paris hier. Et alors depuis, c'est le retour du champion du monde français. Donc tout le monde félicite parce qu'il a réussi à réunir tout le monde dans Notre-Dame. Bref, après l'échec de l'effondrement du gouvernement la semaine dernière, on est quand même scotché de voir comment le CAC 40 s'est bien comporté. Visiblement, zéro stress, une confiance totale en ce qui va se passer en France, une confiance totale contre vis-à-vis du nouveau gouvernement qui va se pointer. Et puis bah tout ira bien dans le meilleur des mondes de toute façon. Aucune question de ce côté-là. Donc l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir sur cette semaine, c'est que c'était absolument magnifique, que tout allait relativement bien. Il n'y a vraiment pas eu de mauvais comportement des marchés financiers. Le Bitcoin au plus haut, le DAX au plus haut, les États-Unis au plus haut, la Suisse qui se traîne comme d'habitude, mais ça, on a l'habitude, justement. Donc voilà, pour l'instant, on a un peu l'impression que tout va très bien, voire peut-être même trop bien sur les marchés financiers. Pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire. A priori, on sait bien qu'au mois de décembre, en général, c'est pas le pire mois de l'année. Donc on a toujours ce Christmas rally qui se pointe et on a les marchés qui continuent généralement à monter. Néanmoins, méfiance, méfiance les amis, parce qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont en train de nous dire tout ne va pas si bien quand même. Petit détour par la Suisse, le taux de chômage en Suisse a été légèrement augmenté à 2,6% en novembre contre 2,5% pour le mois d'octobre. Le nombre de chômeurs a augmenté de 4% pour atteindre 121 114 sur ces 30 derniers jours. Et puis alors, le sujet de vendredi, bien sûr, vous l'attendez tous, c'est les non-farm payrolls. Donc aux États-Unis, le taux de chômage a très légèrement augmenté en novembre à 4,2%, un peu comme prévu par les experts. On était à 4,1% en octobre. Ensuite, selon les calculs savants des clowns du Bureau of Labor Statistics, l'économie américaine aurait créé 227 000 emplois en novembre. Et ils ont même réussi à réviser les chiffres du mois dernier à la hausse, 36 000 contre 12 000 annoncés. Les attentes du marché étaient autour des 200-210 000. C'est donc un superbe mois pour l'économie US. Youhou ! Enfin, si on pense que ces chiffres sont vrais, ce dont je doute fortement personnellement. Alors, rappelons quand même que octobre avait été marqué par plusieurs événements exceptionnels, entre autres l'ouragan Helene, l'ouragan Milton, les grèves chez Boeing. On estime que les grèves auraient pesé comme chose comme 100 000 emplois sur les créations de postes. On peut donc supposer qu'ils ont remis les 100 000 de moins qu'il y avait le mois dernier sur ce mois-là. Donc c'est virtuellement des jobs qui ont été créés, mais ce n'était pas des jobs qui ont été supprimés, c'est simplement des grévistes qui retournent au travail. Donc c'est pas la création d'emplois, mais ça fait plus joli dans la photo, alors on met création d'emplois. Mais en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres démontrent que l'économie reste robuste, en théorie, et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la Fed va baisser les taux au mois de décembre. Après, si on regarde un tout petit peu plus loin, et si on se base sur d'autres sondages, une enquête sur les ménages américains a montré la semaine dernière qu'il y avait une faiblesse significative qui n'a rien à voir avec les NFP. Le nombre de personnes employées ont chuté de 355 000 en novembre. Il y a donc quelqu'un qui ment dans l'histoire, ou alors quelqu'un qui dit pas la vérité. Toujours est-il que dans le même thème, on a aussi appris la semaine dernière que sur le mois de novembre, il y a 111 000 emplois à temps plein qui ont été supprimés et 268 000 à temps partiel. Mais comment les gars, ils arrivent à t'annoncer 227 000 créations d'emplois dans la même période? On peut se poser la question. On peut encore noter que le chômage de longue durée représente maintenant 1,7 million d'Américains qui sont au chômage longue durée. C'était 1,2 million il y a une année. 500 000 personnes d'écart. Et puis, si l'on observe toujours les chiffres de vendredi, on apprend aussi que le gouvernement américain, à l'intérieur de ces 227 000 emplois, 33 000 postes ont été créés par le gouvernement américain en novembre. au moment où le gouvernement démocrate est en train de sauter et qu'il change de président, les mecs, ils ont engagé 33 000 personnes, sérieusement? Bon, bref. Et puis, si on va creuser un peu plus loin dans le secteur privé, depuis 9 mois, le secteur privé perd des jobs. 214 000 emplois de moins sur l'année en glissement annuel. Le seul mois de 2024 où c'était positif, c'était janvier. Donc, on peut quand même se demander comment ils ont été capables de trouver ces 227 000 emplois. Est-ce que c'est simplement 227 000 Père Noël qui ont été engagés pour les fêtes et qui vont se faire virer le 25 décembre, juste histoire de publier des chiffres tout pourris au mois de janvier pour l'investiture de Trump? On peut se poser la question. On peut même aller encore un tout petit peu plus loin, parce que si l'inflation, comme le montraient les chiffres du CPI, du PPI et du PCE il y a quelques jours, mais si l'inflation continue de repartir à la hausse, est-ce que la Fed ne va pas se retrouver dans une situation un peu ambiguë? Une situation qui pourrait les pousser éventuellement à remonter les taux ou à devoir remonter les taux pour empêcher ce retour de l'inflation. À moins que Trump leur interdise de le faire, ce qui n'est pas complètement impossible. En tous les cas, vous aurez bien compris qu'on va beaucoup reparler de cette thématique de l'emploi qui, pour moi, semble complètement bidonnée. Et il y a quelque chose qui ne joue pas d'un côté. Soit il y a trop d'optimisme, soit il y a trop de pessimisme. Mais en tout cas, il y a un truc qui bug au niveau de l'emploi. Et ça, encore une fois, au milieu de ce marché où on est hyper confiant de tout, eh bien, on ne veut pas le voir. Si on regarde les performances de la semaine, donc on a le Dow Jones des transports qui est en baisse de 4,2%, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Le pétrole qui baisse, on y reviendra dans les graphiques tout à l'heure. L'or qui baissote, le Dow Jones en baisse de 0,6%, et pour le reste, bah, c'est tout du vert un peu partout. Le SMI qui monte quand même de 0,14%, c'est limite euphorique. Le S&P 500 qui reprend 0,96% et qui est au plus haut de tous les temps. Le Nikkei en hausse de 2,25%. La Chine et Shanghai, enfin la Chine et Hong Kong, pardon, qu'il faut quand même retenir parce que on voit que les deux indices repartent de pratiquement 2,3%. On l'a vu aussi dans les chiffres qui ont été publiés ces derniers temps. L'économie chinoise semble donner des signes de vie. Il y aura beaucoup de chiffres économiques qui seront publiés lundi et mardi en Chine qui seront très importants. Et en fonction de ça, on pourra commencer peut-être à parler de recovery sur la Chine. Justement, recovery qu'on attend depuis bien longtemps, surtout dans le secteur du luxe. On va y revenir dans quelques instants à propos de Richemont et du reste. Le Bitcoin est bien sûr plus de 47%, on est au plus haut de tous les temps, on ne se pose plus de questions. Le CAC 40 plus 2,65 alors qu'ils viennent de faire exploser leur gouvernement. Et puis le retour du semi-conducteur index plus 2,73%. On va voir ça sur les graphiques dans quelques instants. Ça va mieux, c'est un soulagement. Je vous ai dit plusieurs fois que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait se méfier. Et bien pour l'instant, ça va un petit peu mieux du côté des semis. On dira merci aux résultats canonissimes de Marvel qui ont été annoncés cette semaine. Et puis le Nasdaq, comme je vous le disais en ouverture, eh bien le retour des Magnificent Seven fait qu'aujourd'hui, on reprend 3,3% sur la semaine sur le Nasdaq. Et puis l'Allemagne, c'est du délire absolu. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. Sur la Suisse, Richemont donc prend 7% sur la semaine. Vous voyez qu'on a aussi Logitech qui reprend 4,6%. Swiss Life qui était en baisse, on va y revenir. Novartis qui perd 3,7%. Ça ne nous aide pas à monter tout ça. Roche qui reprend 0,59% sur la semaine. Et puis le reste, eh bien c'est anecdotique, j'ai envie de dire, puisqu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. Mais vous voyez encore une fois nos trois compères. Novartis, -3,7, Nestlé, -0,94 et Roche, +0,59. C'est pas comme ça qu'on va aller récupérer les 12 500, 13 000 sur le SMI. Donc ça reste relativement compliqué et mou, j'ai envie de dire. Surtout mou, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Passons maintenant au graphique de la semaine. Donc vous voyez au graphique au pluriel, hein, vous voyez que le SMI se bagarre et a de la peine à passer cette moyenne mobile des 200 jours. Hein. On a essayé, mais cette semaine, ça n'a pas fonctionné. Donc, on termine juste en dessous de la moyenne mobile des 200 jours sur le SMI. Notre tendance long terme, depuis longtemps, n'existe plus. Elle a été cassée. On est sous cette moyenne mobile des 200 jours. Et vous voyez qu'on se rapproche ici d'une dead cross sur le SMI. Alors, attention. Attention, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va regarder quand même attentivement et qu'on surveille depuis un moment. Le marché n'arrive pas à casser ses résistances de la moyenne mobile ici. Et pour le faire, eh bien, il faudra des big names en Suisse qui se réveillent un petit peu. Mais là, franchement, ça a l'air quand même très, très compliqué à très court terme. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps. Bah, ça se passe de commentaires, hein. Vous voyez que ce wedge ascendant qui est cassé nous amène gentiment. On va aller chercher les 6400 sur le S&P. Je pense qu'ils vont être capables de nous faire ça d'ici la fin de l'année s'ils nous font notre magnifique rallye de fin d'année. Deux, trois bonnes nouvelles par-ci, par-là. Et hop, on est pratiquement à 6400 sur le S&P 500. Pour l'instant, la tendance est là. Comme disait l'autre, il ne faut pas lutter contre la tendance. Et vous voyez, quand on voyait la moyenne mobile des 50 jours sur la Suisse qui courbait vers la baisse avec la moyenne des 200 qui courbait aussi, vous voyez la différence. Aujourd'hui, vous avez une moyenne de 200 jours qui est quasi droite. Et puis là, vous avez même les 50 jours qui s'écartent encore entre les deux. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer encore à la hausse sur le S&P 500. Donc, tout va bien pour l'indice américain. Le Nasdaq 100, ben voilà, je vous l'ai dit, les Magnificent 7, hein, accélération, explosion, on a tout pété à la hausse, record historique. Voilà, il n'y a rien qui nous arrête. Là, pareil, hein, vous voyez aussi que la moyenne mobile des 200 jours et des 50 s'écartent encore. Donc là aussi, on est en phase d'accélération. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que je vous le dis toujours depuis pas mal de temps, on est dans une phase euphorique et c'est difficile de savoir quand est-ce que l'euphorie se termine. Mais prudence quand même. Enfin, néanmoins, pour l'instant, c'est vertical à la hausse. On ne va pas non plus aller contre le vent. Le semi-conducteur index, alors je vous l'ai dit, ça rebondit un peu sur la semaine. On n'est pas encore complètement sorti du bois. Vous voyez qu'on a buté sur la moyenne mobile des 50 jours et on est repassé en dessous. Mais par contre, on s'est éloigné de la moyenne mobile des 200. On a une tendance, une résistance qui passe par ici, qu'il va falloir casser. Hein. Donc le challenge pour le SOX Index, ce sera d'aller casser les grosso modo, on va dire qu'il faudrait qu'on casse les 5275 pour se dire « Ok, c'est bon, on est dehors du bois ». Pour l'instant, on n'est que à 5069, donc il y a encore un bout de chemin à faire. Mais ça va un peu mieux, je vous l'ai dit, grâce aux résultats de Marvel, on en a parlé dans un des Morning Bull de cette semaine. Le graphique délirant de la semaine, regardez-moi ça, vous avez un pays où tout ralentit, la confiance du consommateur est au plus bas, le business confidence est au plus bas, la politique allemande est en train d'exploser puisque Scholz est en train de perdre le pouvoir et probablement qu'il va devoir rendre le pouvoir à la droite. Donc instabilité politique, dépression économique, dépression des gens, baisse de la consommation, licenciement en masse. Et vous avez le DAX qui est à 20 384 au plus haut de tous les temps et qui défie les lois de la gravité. Et donc voilà, je ne sais pas quand c'est que ça va s'arrêter. Je ne sais pas à quel moment on va prendre conscience qu'on est en train d'acheter un truc qui n'est pas forcément justifié. Mais enfin bref, pour l'instant, comme disait l'autre, il ne faut pas aller contre la tendance. Là, c'est plus une tendance, hein, c'est plutôt vertical. Et on dit toujours les arbres ne montent pas au ciel. Et bien, visiblement, en Allemagne, les arbres, ils peuvent aller au ciel. Le CAC 40, alors là, c'est juste démentiel. Vous voyez un pays qui n'a plus de gouvernement, un pays qui n'a plus de leadership, un pays qui continue à montrer des chiffres économiques qui ne sont pas spectaculaires, un pays qui en a ras-le-bol de l'ensemble de la classe politique. Et malgré tout, sur la semaine, vous arriverez quand même à voir une explosion du CAC 40 qui rebondit pratiquement depuis les plus bas. Donc on a vu, on a fait un reversal la semaine dernière ici. Et puis depuis, alors qu'on sait que le gouvernement, on savait que le gouvernement est tombé, et on continue de monter, on termine au plus haut de la semaine, on casse la moyenne mobile des 50 jours, et ben la semaine prochaine, il ne reste plus qu'à aller chercher la moyenne mobile des 200, puis après, qui sait aller rechercher les plus hauts qui se situeraient par là. Mais alors franchement, c'est là où vous dites, peut-être que les gens ont trop joué la baisse de la France, ont trop joué le short évident. Et finalement, eh ben, comme il n'y a pas eu de réaction aussi violente que ça, parce que tout le monde se dit que de toute façon, foutu pour foutu, eh bien, il n'y a pas grand-chose à espérer. On sait qu'ils vont avoir un gouvernement fantoche ces prochains temps. On sait que leur président est un pervers narcissique manipulateur. Mais enfin, mis à part ça, on sait qu'il n'y a plus grand-chose à attendre du côté français. Quand vous lisez la presse du week-end, tout le monde est content parce que Macron a inauguré Notre-Dame de Paris. Ok, je vois pas le rapport avec la choucroute de l'économie. Mais enfin, bref, peu importe. La France va bien, le CAC 40 va bien. Et vu que l'Allemagne monte sur pas grand-chose, il n'y a pas de raison qu'eux fassent pareil. L'or qui ne fait pas grand-chose et qui continue de consolider, on va dire, en dessous de sa moyenne mobile des 50 jours. Mais c'est extrêmement soporifique pour l'instant. Le pétrole qui revient sur les bas du range. Hein, vous voyez ce fameux range dont je vous parle depuis un moment. avec un bas dans la zone des 66,5, 67. On revient chercher en bas. On regarde toujours un peu les tensions au Moyen-Orient. Vous avez vu qu'apparemment Bachar al-Assad a fui la Syrie, donc pas sûr qu'il y ait des grosses conséquences au niveau du baril, mais l'OPEP a laissé entendre qu'ils allaient pas rouvrir les vannes tout soudain, mais qu'ils allaient quand même le faire dans le courant 2025. Donc du coup, pour l'instant, il y a une petite faiblesse sur le baril. Attention à toute cassure de ce support, hein, dans la zone des 66,5, on va dire, si le baril casse les 66,5, on va s'ouvrir la porte à toutes les fenêtres sur le pétrole. Et puis, je vous le montre encore une fois, le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin, ce matin, là où je vous parle, on est à 99 300. On est repassé en dessous des 100 000. Vous voyez qu'il y a eu la semaine dernière, on en a parlé dans le Morning Bull, une grosse journée de volatilité ici, avec pas mal de dégagements, mais finalement, on a quand même repris la tendance. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que les gens aient vraiment envie d'aller massivement short sur le Bitcoin pour l'instant. Mais enfin, voyons comment ça se traite. Tout est possible. Pour l'instant, la tendance est bien établie sur le Bitcoin. Et puis, comme je vous le disais, il y a des probabilités. Les gens sont hyper confiants sur le fait que ça va aller plus haut. Alors vous me direz, oui, mais quand il y a trop de gens confiants, c'est peut-être pas forcément la réalité. Oui, effectivement, le problème, c'est que quand vous regardez le marché en lui-même, eh bien là aussi, vous avez quand même pas mal de gens qui sont hyper, hyper, hyper bullish. Donc là aussi, trop de gens bullish, mais c'est pas grave, ça continue de monter. Période d'euphorie, c'est les fêtes de fin d'année, on est en pleine période d'euphorie, alors on va pas aller contre tout cela. On revient sur la Suisse avec les vedettes de la semaine. Alors, chez Holcim, tout d'abord, le géant des matériaux de construction a annoncé la vente de ses parts dans le groupe Lafarge Africa, qui est basé au Nigeria, au cimentier chinois Huaxin Cement. Alors, Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours sur Holcim avec un overweight. Alors, l'analyste pense que l'action pourrait partir à la hausse parce que les flux de trésorerie s'améliorent, ils réduisent la dette. Bref, grosso modo, pas mal de bonnes nouvelles sur Holcim. Alors, perso, j'ai jamais réussi à traiter cette action. Mais enfin, bref, c'était pas trop mal pour eux la semaine dernière. Comme vous le voyez sur la nouvelle et sur les upgrades, on a bricolé un peu à la hausse. Pour l'instant, on bute quand même sur la résistance des 92,50 sur Holcim. Il faudra voir si on arrive à passer par-dessus. En attendant, on devrait rester dans ce range très serré entre 86,70 et 92,50 pour le cimentier. Mais encore une fois, je vais vous dire que dans ma carrière, c'est le titre où je me suis systématiquement planté quand j'ai voulu faire quelque chose dessus. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder sur la question. Et chez Swiss Life, on a annoncé de nouveaux objectifs pour la prochaine période. Alors, c'est une période qui s'étend de 2025 à 2027. Dans la continuité du plan précédent, les nouvelles valeurs qui ont été annoncées par Swiss Life, eh bien, c'est d'atteindre leurs objectifs d'eux-mêmes, c'est-à-dire sans faire d'acquisition. Donc, ils n'ont visiblement pas prévu de faire d'acquisition sur 3 ans. Ça n'a pas vraiment plu au marché, puisque le titre, eh bien, s'est effondré de 5% au moment de l'annonce. Et même si on a vu un petit rebond, ce n'était pas la meilleure semaine du monde pour Swiss Life. Alors, vous voyez l'annonce, le titre qui traite à 720 et des poussières, annonce, bam, on va chercher tout en bas à 670, 50 balles plus bas, et on rebondit pile poil. Ouais, des fois, c'est quand même assez magique, l'analyse technique, parce que chaque fois, on revient quand même poser sur des niveaux, vous voyez, 50 moyenne mobile des 200 jours, bam, rebond. Et derrière, vous passez de 670 quand même à 691 en l'espace de 2 jours. Et donc, pour l'instant, Swiss Life, tendance qui est en train de changer. On a vu une très, très belle tendance haussière depuis quelques temps. Et là, vous voyez quand même que ça baisse, ça pêche un peu. On voit que le marché est upiche, que les moyennes mobiles sont en train de s'inverser. Donc, petit changement d'ambiance pour l'instant chez Swiss Life. Chez Feintool, restructuration. Alors, Feintool va fermer son site allemand de Sachsenheim. Ils vont transférer une partie de leurs activités vers ceux de Wallingen et de Tocode. Jamais été en vacances là-bas, mais enfin voilà. 200 emplois seront supprimés sur les 450 chez Feintool. Un graphique qui se passe de commentaires. Hein, vous voyez, l'annonce n'a pas vraiment plu, mais en même temps, quand vous voyez la tronche du graphique, on a juste l'impression d'un couteau qui tombe pour le moment chez Feintool. Alors, eux se sont tout d'abord emparés de la plateforme d'investissement immobilier qui s'appelle Empira, montant de transaction qui n'a pas été divulgué. Et puis, en même temps, dans la foulée, ils ont vendu la plateforme d'énergie renouvelable VSB Group à Total Energy pour une valeur de 1,57 milliard d'euros. Alors, Partners Group Si vous regardez un peu la configuration du chart aujourd'hui, vous vous souvenez de ce que j'avais dessiné à l'époque, cette espèce de coupole qui laisse supposer que le titre va remonter violemment. Ben, on est bien remonté quand même, puisqu'on a fait des plus bas à 750 et des poussières, qu'aujourd'hui on est à 1304. Et je pense que si on arrive à aller casser les 1350, je pense qu'on pourra juger qu'on est en train de faire une nouvelle étape haussière qui pourrait nous ramener gentiment en direction des 1600 francs suisses sur Partners Group, qui a l'air de pas mal se débrouiller en ce moment et qui font des bons deals. Donc, ce qui pourrait être encourageant pour l'avenir. En tous les cas, perso, ce genre de chart fait partie des graphiques où je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que ce machin, ça va nous péter encore à la figure, à la hausse. À propos de péter à la figure, on notera que Meyer Burger s'est envolé de 196% l'autre jour. Alors, la société de cellules photovoltaïques a obtenu un financement de 39,48 millions de francs suisses. Ça devrait leur permettre de stabiliser un peu l'entreprise qui est en grande difficulté. Mais pour bénéficier de cette somme, le groupe va quand même prouver et montrer qu'il a réussi à convaincre un de leurs importants clients pour leur accorder aussi sa confiance. Alors, je vous montre le graphique comme ça, parce que oui, il y a eu un spike de 200%, mais vous voyez que quand ça vaut rien, 200% sur un graphique, ça se remarque pas non plus. Hein. Donc vous voyez, on est passé de 0,44 au plus bas à 1,42. Donc voilà, ça, on dirait une crypto-monnaie pour l'instant, donc on va pas non plus s'emballer, mais enfin voilà, c'était quand même quelque chose de relativement positif sur Meyer Burger. On notera aussi que du côté du luxe, ça respire un peu mieux, ça va un peu mieux, entre autres chez Richemont, avec le retour de la thématique chinoise. On sait que les chiffres économiques chinois, j'en parlais au début de la vidéo, montrent quelques signes d'amélioration. On est donc en train de se dire que le stimulus fonctionne quand même. Peut-être pas directement sur le consommateur, mais il fonctionne quand même sur l'économie chinoise. Donc, il y aura des développements positifs à l'avenir, on l'espère. En tout cas, on a vu cette semaine que LVMH a repris plus de 6%. Or, L'Oréal prenait 4,5%. Kering reprenait 8%. Et Hermès, 9,4%. C'est donc le moment, enfin, pour le moment, le retour du luxe. Alors, en Suisse, du coup, Richemont a repris 7% sur la semaine, alors que Swatch se faisait quand même downgrader sur la semaine par JP Morgan et par Goldman Sachs. Donc, deux salles, deux ambiances du côté du luxe en Suisse. Hein. Une belle semaine pour Richemont, mais une semaine toute pourrie pour Swatch. Vous voyez Richemont qui rebondit, donc qui se fait une jolie semaine et qui casse la moyenne mobile des 50 jours et la moyenne mobile des 200 jours dans la foulée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à repartir vraiment sur une tendance haussière. Vous voyez que notre tendance descendante est cassée aussi. Donc, il y a l'air d'avoir un petit peu du mieux sur Richemont. Et puis, je prends LVMH parce que c'est le meilleur exemple. Vous voyez que LVMH, bah, eux aussi, ils sont repartis un peu dans la même configuration. On est un peu dans le même, bah, évidemment, dans le même comportement. Si vous regardez un peu là où on en est aujourd'hui, il va falloir casser à la hausse pour pouvoir se dire c'est bon, c'est reparti. Mais en tous les cas, on a l'impression que le luxe semble retrouver un petit peu des couleurs avec ce retour de la Chine. Et vous voyez le parent pauvre qui pour l'instant ne fout rien, eh bien c'est Swatch qui est toujours collé au fond du panier. Pour ce qui est de la semaine à venir, la semaine qui nous attend sera donc basée sur la BCE, qui va annoncer sa décision sur les taux dès jeudi après-midi, mais il y aura aussi le PPI japonais, le CPI, le PPI chinois le même jour, ça sera lundi, et puis il y aura le trade balance chinois encore le mardi, puis mardi, il faudra aussi noter qu'il y aura le CPI en Allemagne, et ensuite, dès mercredi, on va attaquer avec le CPI et le PPI, mercredi-jeudi aux USA, et puis les banquiers centraux américains seront sous black period, ils n'auront rien le droit de dire avant le meeting de la Fed qui est prévu, je le rappelle, encore une fois, le 17 et 18 décembre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir pas mal d'informations via de la BCE, on va avoir pas mal d'informations sur la thématique du CPI. Je le disais par rapport à l'emploi qu'aujourd'hui, vous avez le CPI, le PPI, le PCE qui semblent redonner des signes de vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le pétrole est au plus bas et que ça fait pas mal de ce côté-là. Mais sur le reste, ça continue à rester relativement problématique. Les coûts à la consommation, les coûts de la consommation, elles sont extrêmement délicats à gérer en ce moment aux États-Unis. Donc, ce sera très intéressant de voir ce que va sortir le Bureau of Labor Statistics avec le CPI et le PPI pour voir si il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'inflation, ce qui pourrait nous poser des questions sur les prochains mois. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que c'était méga bullish, qu'on est méga euphorique et que pour l'instant, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Moi, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et bien, autrement pour ça, à demain. Allez, soyez forts. Bye bye.